direct de Montréal, voici le cabaret des acolytes.
Le spectacle va bientôt commencer!
On ne peut pas faire de magie, on ne peut pas les inventer, ces personnes-là.
Ça alors, pour une surprise, c'est tout une surprise. Oh, bonjour les tout-petits!
Accueillez votre animateur pour le cabaret des acolytes, Jean-François Gélinas.
Je vous souhaite la bienvenue à ce tout nouveau cabaret des acolytes. Le rideau s'ouvre sur la grande scène. On prit place autour de cette table, les fameux acolytes. Bonsoir la gang, bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Janelle.
Allô, allô.
Geneviève allô. Proulx. Allô. Janelle Touchette, voyons. Je vais dire les noms de famille. Patrick Beaudoin et Juan Blasco, celui qui vient de parler.
Allô, allô.
Alors, Christine est encore absente, mais elle va revenir. Ça sera pas long, elle va revenir. Eh bien, vous vous souvenez que je vous avais parlé de faire une soirée, lorsqu'on écoutait du Elvis, faire une soirée à écouter que du Elvis. Bien, je l'ai faite. J'ai pris une soirée, puis on a mis la playlist d'Elvis, puis on a écouté ça. Et puis, ben, Juanito, tu t'en... il fait des faces comme s'il s'en rappelait pas. Moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle. Alors, qui a trouvé le thème de ce podcast aujourd'hui?
Je pense que c'est toi, Jean-François.
Ben oui, c'est suite, on a écouté la série ou le documentaire L'arnaqueur de Tinder. Avez-vous écouté ça à la maison?
Oui.
Ben oui.
Ouais. Eh bien, comment ça s'appelle en anglais, le Tinder Swindler? Okay. Ouais, c'est ça. Hein?
Le Tinder Swindler?
Oui, c'est ça.
Thanks, General Touchette.
Eh bien, ça m'a amené l'idée. Ça m'a amené l'idée de faire tout un podcast sur le sujet qu'on va vous présenter à l'instant. C'est bon? Tout commence par un petit contact, un texto de solde impayé, un appel gouvernemental, une annonce publicitaire alléchante, un courriel princier. Et c'est la bougie d'allumage pour la déchéance de nos actifs. Quand l'escroquerie est trop connue, une croisière par exemple, on raccroche, sachant très bien qu'on risque de se retrouver naufragé sur une île déserte, regardant au loin quitter le navire de nos avoirs. Mais les escrocs usent d'imagination, de supercherie longuement réfléchie. Les arnaques ne sont pas toujours évidentes, pas toujours connues. Il y a les grandes fraudes, celles qui nous terrorisent seulement à l'idée de tout perdre du jour au lendemain. Les vols d'identité, les arnaques de professionnels, celles dignes de l'art fictif de Brie X. Et il y a aussi les petites tromperies, celles qui nous font, par exemple, regretter l'achat d'une superbe opportunité qui n'arrivera jamais à notre porte. Rappelons-nous toujours, lorsque l'offre semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Vous l'aurez deviné, ce soir, aux acolytes, on vous fait tout un cabaret autour des arnaques.
Hey.
Alors, je fais le tour de table. Patrick, tu vas nous parler des absurdités du marketing et de la consommation à l'épicerie.
Oui, je déteste ça me faire avoir, surtout quand c'est quelque chose qu'on consomme après. Tu sais, tu veux manger, ça coûte cher. J'aime pas ça me faire avoir.
Des arnaques, il y en a dans toutes les allées. Hein?
Il y en a partout. On regarde ça tantôt.
Parfait. Janelle, pour ta part, tu vas nous parler des arnaques au travers des fake news.
Oui, mon cher JF, ce que tu dis n'est pas une fake news.
Non, tu vas nous parler de tromperie.
Un peu, quand même.
Merci, Janelle. Geneviève, toi, pour ta part, tu vas nous parler des arnaqueurs célèbres et comment ils nous ont arnaqués.
Effectivement, puis vaut mieux les connaître parce qu'il y en a qui sont encore actifs, fait que je préfère qu'on soit avisé.
Merci Geneviève, on revient à toi plus tard. Et Juan, pour ta part, tu vas nous parler d'une des plus grosses arnaques du dernier siècle, un chef-d'œuvre d'arnaque quasiment.
Exactement, mais je vous dévoile ça tantôt, Jean-François, ça s'est déroulé en France au début du siècle dernier, je ne veux pas trop en dire, mais c'est quasiment du David Copperfield. Écoute, il a quasiment fait disparaître la Tour Eiffel.
Et bobo, ok, ben allez, ça démarre les acolytes, le cabaret, et là je vous mets au défi de comprendre le pourquoi de la prochaine chanson. Le cabaret est ouvert sous le thème des arnaques. Girl, you know it's true. Oh, 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 I love you. J'ai dit que Christine était absente du cabaret, mais c'est pas vrai. Elle est là. C'est elle qui a tout fait le montage et la recherche musicale. Et voici, c'était Milli Vanilli, ce duo musical germano-français. Je ne savais pas qu'il était français. Il y en a un qui est français, Fabrice Morvan, oui. Et Robert Pilatus. Robert Pilatus est lui allemand. Il est décédé, hein? Il est décédé en 1998 d'une overdose. Mais pourquoi l'arnaque? Est-ce qu'il y en, vous le savez autour de la table? Ben oui, hein?
Aucune idée.
Geneviève?
Aucune idée.
C'est parce qu'ils font du lip-sync.
Ben non. Oui! En 1989, pendant un concert, la bande magnétique sur laquelle les chanteurs chantaient a dérapé. Et c'était cette chanson-là qui jouait.
Pour les petits maudits.
Les journalistes ont compris par la suite qu'ils ne chantaient pas. C'était d'autres chanteurs.
Aïe, aïe! Ouais, finalement, ils n'ont jamais chanté, eux autres?
Ils n'aiment peut-être pas la fille, hein? T'sais, girl, you know it's true, I love you. Je pense qu'il l'aime pas.
Mais le pire, wow. c'est qu'avant, ils chantaient. C'était une décision de leur producteur de faire ce subterfuge. Mais avant, ils chantaient. Et il y en a un qui a passé...
le producteur devait penser qu'il chantait très mal.
Il y en a un qui a passé à Eurovision, qui a représenté l'Allemagne. Je pense que c'était Robert Pilatus.
J'allais dire, c'est pas gage de grand-chose, mais bon, c'est vrai que Céline Dion aussi passe à l'Eurovision. Donc,
quand même. Bon, ça vous donne un aperçu de l'ambiance du cabaret sur les arnaques. Ça va être le fun. Juste un petit mot là, pour vous dire que vous pouvez nous suivre sur Facebook, facebook.com/le cabaret des acolytes. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui nous suivent. Et le cabaret est hébergé chez Balado Québec. On les remercie. Le cabaret est disponible également chez Spotify, Apple, Google et la plupart des plateformes de podcast. Alors, on poursuit le cabaret et je me tourne vers Juan.
Ouh, c'est déjà mon tour.
Oui, Juanito. Donc, la Tour Eiffel aurait été vendue.
Eh oui, toi.
Et là, je ne parle pas que d'une petite Tour Eiffel en plastique, un souvenir de Paris, mais je parle de la vraie Tour Eiffel.
Eh bien oui, Jean-François, presque. Presque, elle a presque été vendue. Mais rappelons d'abord que la Tour Eiffel est née dans le cadre de l'Exposition universelle de Paris en 1889. Puis là, ben, on se retrouve vraiment au début du siècle dernier. Donc en 1910, la ville de Paris devient officiellement propriétaire de la Tour Eiffel et ils ne savent pas quoi en faire. Puis Gustave Eiffel, ben, il continue pendant des années à essayer de défendre son projet.
Parce qu'elle n'a pas toujours été aimée, cette Tour Eiffel.
Non, en fait, au départ, elle ne s'appelait même pas la Tour Eiffel, elle s'appelait la Tour de 300 mètres. T'sais. Elle n'avait comme pas nécessairement de purpose à Paris. Elle était comme vraiment en plein milieu de Paris, puis c'était une flèche qui allait vers le ciel, puis c'était comme une des plus grandes tours du monde. Mais c'est ça, donc en 1925, à la mort de Gustave Eiffel, ben, la question se pose. Puis là, il y a un article qui paraît dans la presse française, et c'est là que un certain Victor Lustig, en lisant cet article-là, il a monté une des plus grosses arnaques du siècle passé. Donc en fait, l'article, il mentionne les difficultés financières de la ville de Paris quant à l'entretien de la tour. Et le fameux Victor, il n'a pas eu besoin de plus pour imaginer son plan. Fait que tout d'abord, il se procure des papiers avec l'entête officielle de la ville de Paris. Il se procure également une fausse vraie carte d'accès à la tour Eiffel. Puis après ça, il cible ses victimes potentielles. Fait que Il va cibler en fait les plus gros ferrailleurs de la région qu'il invite à l'hôtel Crillon à Paris pour une entrevue qui, bien entendu, doit rester secrète. C'est bien stipulé dans la lettre qu'ils reçoivent avec le papier d'entête de la ville de Paris.
Parce que je connais un petit peu l'histoire, Juanito. Oui. L'article il finissait, là, l'article qu'il a lu, c'est que l'article finissait en disant que ben pourquoi qu'on ne détruit pas la Tour Eiffel?
Exactement, exactement. Fait que dans le fond, c'est ça qui a donné l'idée. Fait que quand les gens ont reçu la fameuse invitation à cette réunion secrète, ben, tu sais, il y a comme l'entête officielle de la ville de Paris. Ça t'invite à une entrevue secrète. Forcément, ça éveille ta curiosité, puis tu as le goût de savoir de quoi il retourne exactement. Puis c'est en avril 1925, donc il y a presque 5 ans, il y a presque 100 ans aujourd'hui, en fait, 97 ans à peu près, là, que 5 hommes d'affaires ben, ont répondu en fait à l'appel, puis ils se rendent à l'hôtel Crillon. Fait que là, dans les salons de l'hôtel Crillon, Victor, là, il se montre vraiment très, très convaincant. Donc, c'est notre escroc, mais lui, dans son discours, il est mandaté par la ville de Paris. Et l'immense tour de fer, elle coûte ben trop cher à maintenir et elle doit disparaître. Et pour ce faire, la ville de Paris a donc fait un appel d'offres secret pour ne pas alerter la population, bien sûr, et pour s'assurer du bon déroulement du projet. Puis c'est celui qui offrira le plus, qui aura le mandat de démonter la tour, puis qui sera l'heureux propriétaire, tenez-vous bien, des 15 000 poutres et des 2,5 millions de rivets qui la composent. Donc pour des ferrailleurs, c'est énorme. Donc, bien entendu, ils doivent garder le secret. Seulement quelques hauts placés du gouvernement français sont au courant. Ils citent même Gaston Doumer, qui est en fait le président français de l'époque. Bien entendu, c'est complètement faux. Le président français de l'époque n'était pas du tout au courant, puisque tout ça s'est vraiment monté de toutes pièces. Donc, après son speech, Victor, il emmène nos cinq hommes d'affaires à la tour en utilisant sa fausse carte, sa fausse vraie carte d'accès, donc qui ouvre vraiment les portes. Il a déjà une cible en tête parmi les cinq hommes. L'un d'entre eux se montre plus intéressé que les autres, en effet. Il est un peu plus jeune, il doit faire ses preuves, il manque d'expérience. Puis dans la tête de Victor, là, sa fierté et son manque d'expérience seront sa perte. Il s'agit donc, croyez-le ou non, d'un homme d'affaires qui s'appelle André Poisson. Poisson, comme un poisson.
c'est là que ça vient, le poisson d'avril ou...
Ben, je sais pas, mais il porte bien, porte bien son nom en tabarouette, comme on dit ici. Donc, effectivement, quelques jours plus tard, le poisson se manifeste et il veut absolument être choisi. Et pour ce faire, et surtout pour renforcer son personnage, Victor, il lui dit, ben, regarde, pour que tu sois choisi, c'est parce que moi, je vais t'avoir choisi. Donc là, il lui extorque en plus un pot de vin qui lui assurera d'être le premier choix. Donc, les deux hommes se retrouvent quelques jours plus tard à l'hôtel Crillon pour finaliser la transaction. Là, le contrat est signé, le pot de vin est dans les mains de Victor. Et un chèque pour l'achat de la Tour Eiffel est également dans les mains de l'escroc.
Est-ce qu'on sait de combien?
On ne sait pas de combien, parce qu'en fait, je vais t'expliquer pourquoi, à la minute où M. Poisson quitte l'hôtel, Victor fuit dans son pays d'origine, qui est l'Autriche, non sans encaisser le chèque et déposer l'argent du pot de vin à la banque.
OK.
Et quand notre victime, elle s'en rend compte, ben, il est ben trop tard. Il ne peut même pas porter plainte, il ne peut rien faire, il a honte. Et il a tellement honte qu'on ne saura jamais le montant, ni du chèque, ni du pot de vin.
Parce qu'il n'aura jamais porté plainte.
Ah. Parce qu'il n'a pas porté plainte, il avait ben trop honte de s'être fait prendre. Donc Victor, ouais. Lui, dans sa vie, il ne s'arrête pas là. Il retente une autre fois l'arnaque en 1935, mais l'acheteur, à ce moment-là, il est méfiant, puis il y a quand même des oui-dire. Fait que là, il le dénonce à la police, ce qui fait en sorte qu'il fuit aux États-Unis. Puis là, ben, dans le fond, il fait d'autres arnaques. Puis dans la même année, il est arrêté par la police américaine et est envoyé à Alcatraz. Puis il va mourir 12 ans plus tard d'une pneumonie dans sa cellule à Alcatraz.
My God! Méchante affaire!
Mais oui, puis figurez-vous que la légende dit qu'on l'entend encore dans Alcatraz, la nuit, en train de gémir et en train de se demander comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à vendre une deuxième fois la Tour Eiffel.
Aïe, aïe, aïe.
Wow.
Christine a choisi une chanson idéale pour toi.
Wow.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marche.
Alors, si vous êtes un entrepreneur en récupération de béton et qu'on vous fait miroiter un contrat de démolition du stade olympique, méfiez-vous.
Et boy.
Mais savez-vous quoi faire exactement lorsqu'on est, on soupçonne un cas de fraude ou un cas d'arnaque?
Ah, j'ai aucune idée, pour vrai.
Le gouvernement...
Mais ça me fait overkill d'appeler le 911.
Ben, le gouvernement du Canada nous donne quatre choses à faire. La première chose, c'est de signaler l'incident à votre service de police locale. La deuxième, c'est, et je ne savais pas que ça existait, signaler l'incident au Centre antifraude du Canada ou au Bureau de la concurrence.
Bon.
Et le troisième, c'est signaler l'incident à l'institution financière qui a effectué la transaction, s'il y a eu une transaction. et faites surveiller vos comptes et vérifier vos rapports de solvabilité.
Hein? Wow.
Il nous aime, notre gouvernement. Hein?
Ouais, il nous protège quand même bien.
Una mattina mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh, partigiano.
Eh oui, vous l'avez reconnu. On l'a déjà joué au cabaret, cette chanson-là, Bella Ciao, de Manu Pilas. Patrick, on s'en va au centre d'achat avec toi.
Oui, ben, à l'épicerie, surtout. Ouais. J'aime pas ça, magasiner. Je ne magasine pas beaucoup. Si je l'avoue, là, c'est ma blonde qui fait 95% du magasinage à maison pour toute la famille. Moi, je m'occupe de l'épicerie. Bon. Je m'occupe, c'est un grand mot. Ma blonde me fait une liste, puis moi, je vais à l'épicerie, mais je fais les achats. On va pas se cacher quand même. Mais dans mes petites escapades au supermarché, j'ai identifié plusieurs arnaques, petites, grandes, n'importe quoi, toutes les sortes, il y en a plein. En voici quelques-unes. Je commence doucement, on jase fraîcheur. Dans le département des fruits, oh, des belles fraises rouges, toutes pimpantes. Hein? Je prends peine, je sais, à chaque fois, je prends le petit panier transparent, je le tourne sur tous les côtés, je regarde ça. C'est parfait, ils ont l'air fraîches et juteuses. Je les mets dans mon panier. J'arrive à la maison 20 minutes après. Tu sais, j'ai pas fait un détour par les îles turquoises. Là, 20 minutes, j'arrive chez nous. Il y a de la mousse partout. On dirait que l'emballeur, il les a pris et ils les ont emballés individuellement dans de la barbe à papa. Je comprends pas. C'est fâchant. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Ouais. Ouais, je reste poli. Il va me fâcher tantôt.
Je sais pas si Vincent Lacroix considère ça comme une arnaque, lui.
Êtes-vous des amateurs de chips, les acolytes?
Oh. Oui!
Moi, je trippe ces chips. les sacs de chips, les sacs de chips remplis d'air, ça a toujours été comme ça, vous allez me dire.
C'est
faut
vrai,
les protéger.
Hein? T'achètes plus d'air que de chips.
Oui, oui. Tu sais, les sacs, à travers le temps, ont toujours été à peu près la même grosseur. Avez-vous remarqué qu'il y a 20 grammes de moins d'un sac de chips maintenant?
Oh, non!
Tactique de fabricant, on ne monte pas les prix, on réduit la quantité, c'est fâchant.
Ah, tu m'étonnes.
Ouais, c'est vrai, tout le temps, t'as de moins en moins de
même
chips.
Dans les sacs party, là.
Même les party mix, ouais.
Fait que dans le fond, la quantité qui est écrite sur le sac n'est pas réelle.
Ben, je pense que, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est pas vrai ce qui est écrit dessus, mais ce qui est vrai, c'est que ça réduit tout le temps. T'as-tu pris des photos de tes anciens sacs de chips? Essaye de prendre des photos de tes sacs de chips aujourd'hui. Dans 2-3 ans, tu regarderas moins de quantité, moins de grammes. Un autre exemple de réduction de la quantité des saucisses hot dog. L'autre jour, j'arrive à l'épicerie, saucisses hot dog de marque maison en spécial, 3,99 le paquet. Je regarde à côté, paquet de marque connue, 5,49. Ça a tout l'air d'être un bon deal. Attention, j'ajoute ça à mon panier. Je ramasse un sac de 12 pains en passant. J'arrive à la maison. « Hey, les filles! Papa va faire des stimés! » Je sors le saucisse. 10 saucisses. Pas 12. Ouais. 10 saucisses dans le paquet. Mais depuis quand il n'y a plus 12 saucisses dans un paquet de saucisses? Parce qu'ils n'ont pas commencé à vendre du pain en paquet de 10, là. Non, non. Je veux dire, c'est supposé être un fit. C'est un kit. Ça va ensemble. 12 saucisses, 12 pains. Non, non, non. Non, non. Maudite arnaque de quantité. C'est pas cool, ça. L'affichage des prix maintenant. Hein? Tu sais, quand il t'affiche le prix régulier en kilos, il est barré, puis à côté, mettre le prix en spécial en livre. Tu sais, puis ça a l'air d'une espèce de gros méga deal exceptionnel. Genre, bœuf haché était 14$ le kilo, prix choc à 6$ la livre. Tu regardes ça, tu dis, hey, c'est malade, c'est moi qui mets ces prix, je peux pas prendre ça à côté de ça. Wow, minute, fais le calcul. 6$ la livre, ça, c'est comme 13,23 le kilo, un gros 6% de rabais, ça. C'est pas un prix choc, c'est choquant, mais c'est pas un prix choc. Autre affaire, les produits d'appel, tu sais, les produits dans le circulaire, là, ça a l'air tellement spécial, tu dis, j'ai pas le choix, il faut que j'aille à l'épicerie. Un exemple, les boîtes de côte levée à 7,99 au lieu de 14,99, tu peux pas manquer ça. Là, tu arrives à l'épicerie la première journée du spécial, c'est vide. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun ribs à 7,99 là, il y en a pas, cherche-le pas. C'est un produit d'appel. Là, t'es tellement frustré, tout ce que tu fais, t'achètes n'importe quoi compulsif à prix régulier. Ils sont pas bêtes, hein? Ils sont pas bêtes. Non, non, ils disent à force de... ah, c'est vrai. Ils nous appellent avec des produits qu'ils ont pas pour que t'achètes autre chose à prix régulier. Hey. Yeah.
Puis dans le temps, là, quand il manquait, quand il faisait des rabais comme ça, puis qu'il n'y avait pas le produit en question, tu arrives là, puis pas le produit, tu pourrais remplir un petit formulaire, puis avoir le produit quand il va être revenu à quelque chose. Mais c'est fini, hein, ça?
Ah, tu peux pas ça.
En tout cas, pour ne pas nommer le nom de l'épicerie, il y a trois lettres, là, ça commence par un I. Ça marche encore chez eux.
Mais moi, j'en ai fait des bons différés il n'y a pas plus tard qu'à peu près un mois et quelques. Donc, oui,
j'aime pas qu'on pouvait faire ça.
Mais je me suis rendu compte que le produit, par contre, c'est pas un produit qui tient en épicerie régulièrement.
Ah!
Donc,
Ah, fait qu'il faut que t'attendes.
Fait qu'il faut t'attendre vraiment longtemps, là.
Ben, ils l'ont. En tout cas, depuis que je l'ai fait faire, j'ai jamais retrouvé l'article en question.
Ben, l'an prochain, peut-être.
Peut-être. Hein? Ouais.
Hey, il y en a partout des arnaques. Produits d'entretien, produits d'hygiène. Détergent à lessive. L'autre jour, j'ai pris le temps pour vrai. Là. Pas que j'ai beaucoup de temps à perdre dans ma vie, mais là, j'ai pris le temps. Je suis devant le rack de détergent, le rack, le présentoir. Tide régulier et le nouveau Tide amélioré Ultra Heavy Duty. Les deux sont au même prix. 24,99 le bidon.
Wow, c'est une bonne
idée. Déjà, je
ne
comprends pas. Pourquoi tu continues à vendre du régulier si à côté, tu as amélioré ton produit, tu le vends, tu sais, ultra meilleur, beaucoup plus. Y a-tu encore des gens qui achètent le régulier quand à côté, il est meilleur? Mais quand même, sur le gros bidon de tête d'original, il y a une enseigne, c'est écrit, en gros, là, 25 semaines de propreté, 107 brassées. Wow, c'est malade. Tu regardes à côté, le ultra tête amélioré Heavy Duty, lui aussi, 25 semaines de propreté, mais sans brasser de lavage. Oh. Qu'est-ce que je comprends pas? Il est amélioré, il est heavy duty, ultra machin, puis tu fais moins de brasser pour le même prix, mais ça marche pas. C'est une arnaque, on se fait laver. En terminant, c'est pas parce que je veux m'essuyer à rabais, là, OK? Mais avec une blonde puis quatre filles à la maison, laissez-moi vous dire, il s'en déroule du cotonnel, OK? Fait que moi, à chaque fois que je vais à l'épicerie, le monde, il pense que j'overstock à cause de la Moses de pandémie. Mais sérieusement, avez-vous déjà pris le temps de comparer ou d'essayer de comparer les prix sur les différents paquets de papier de toilette? C'est pas possible. C'est impossible.
Enfer, ça. C'est l'enfer.
Sérieux? L'autre jour, je me dis, OK, je vais en avoir tous les prix augmentent. J'en veux pour mon argent, là. Hein? Okay, je regarde ça, toutes marques confondues. 24 rouleaux de 135 feuilles, 5,99. 8 rouleaux doubles. 242 feuilles, 7,99. 15 rouleaux doubles, 18,49. 12 rouleaux doubles à 253 feuilles. 30 rouleaux jumbo, 211 feuilles. Des rouleaux jumbo, en veux-tu? 30 rouleaux, 304 feuilles. 9 rouleaux méga, 352 feuilles. Sérieux, ça rend malade. J'étais à peu près 10 minutes devant le présentoir. J'avais mon petit calepin, mon crayon, essayait de faire des règles de 3. Non, je voulais trouver le meilleur rapport quantité-prix. Ça marche pas. J'étais complètement mêlé. C'est là que je me suis dit, là, je suis tanné de me faire avoir. De la crotte, je m'en vais au Costco.
Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Costco, pour vrai, pour ça, c'est la vie, là.
Merci beaucoup,
juste
Patrick.
Juste un produit, tu ne peux pas comparer. C'est Costco.
Il n'y a pas juste des magasins qu'on se fait avoir. Il y a aussi là.
Tu vois, Jocelyne,
oui, Paul.
Je frotte,
okay.
Je mets du produit,
mm-hmm.
Et voilà,
merveilleux.
Tu vois, Jocelyne,
oh, Paul.
Je te frotte,
mm-hmm.
On se reproduit, et voilà.
Bonjour,
bonjour,
bonjour. François Pérusse, ben oui, excellent. J'avais oublié de vous dire la chanson Bella Ciao. Juanito m'a envoyé un petit mot là, pendant la toune. Bella Ciao, ben, le pourquoi qu'on a mis ça, c'est parce que c'est la grosse arnaque de la Casa del Papel. Vous aviez compris, j'imagine.
Hein? Sûr, ben oui. Ben, voyons donc. Ben, oui.
Il fallait juste le citer. Là. On n'a pas beaucoup de grands hits en Espagne, fait qu'on aime ça les citer. Là, tu sais.
J'écoutais des... je me renseignais cette semaine, puis j'écoutais une émission spéciale sur les arnaques faites par la facture. Et j'ai été flabbergasté d'une arnaque. On sait tous qu'on ne doit pas donner notre numéro, nos numéros de carte par téléphone. Et bien récemment, il y a un type d'arnaque. Un fraudeur vous appelle sur la ligne résidentielle. Puis là, c'est important que c'est la ligne résidentielle sur laquelle il vous appelle. Il se présente comme l'employé... La ligne filaire.
La ligne filaire, exact.
Et il se présente comme un employé de la banque. Et puis là, il dit, ne vous inquiétez pas, vous allez chercher votre carte bancaire et rappelez le numéro. On ne fera pas ça là. Raccrochez le numéro, puis on va traiter votre demande à ce moment-là. On a besoin d'informations sur votre crédit. Fait que là, la personne au téléphone, elle dit, allez chercher la carte, je vais vous attendre. Et puis là, la personne, elle dit, vous avez votre numéro de téléphone, votre carte? Oui, d'accord. OK, alors là, raccrochez et rappelez au numéro de la carte. Alors, la personne raccroche. Mais là, ce qu'elle ne sait pas, et ce que moi non plus, je ne sais pas, c'est que sur les lignes filaires, ça prend un certain temps. Si l'autre personne ne raccroche pas, ça prend un certain temps avant que la communication coupe. Donc, lorsque la personne raccroche et reprend le combiné, elle est encore au téléphone avec l'arnaqueur et l'arnaqueur, là, simule l'appel simule un centre d'appel de Visa ou de Mastercard. Et là, il prend toutes les informations parce que la personne se croit chez Visa ou Mastercard.
Mais la joke, parce que je connais ça un petit peu, moi, les téléphones, hein?
Oui, vas-y.
La joke, c'est que, dans le fond, c'est que si la communication n'est pas coupée, ça veut dire que quand il décroche l'appareil pour rappeler, entre guillemets, ben il n'y a pas de tonalité. Normalement, quand tu décroches ta ligne, tu as une tonalité qui est là.
C'est exactement ce que le fraudeur fait. Il simule une tonalité à l'appel de l'autre côté. Hein, c'est pas pire, hein?
C'est incroyable, hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui pour nous soutirer de l'argent?
Malade.
Allez. Les reconnaissez-vous?
Oui.
White Stripe. Pourquoi? Quoi?
Non, c'est ça, je n'étais pas certain, mais il me semblait. White Stripes.
Ben oui, frères et sœurs ensemble dans un même groupe. Frères et sœurs, oui, non, non, ce sont des ex, ils étaient mariés, ils n'étaient pas frères et sœurs.
Ah ouais, c'est ça l'arnaque.
Eh bien oui.
Je savais même pas.
Ben oui, ils ont fait accroire ça parce que d'un point de vue marketing, c'est mieux de se dire frère et sœur que marié.
Marie et femme. Et voilà.
Est-ce que Billie Eilish et son frère sont mariés ou sont vraiment frère et sœur?
Mes recherches ne le disent pas. Alors Geneviève, on poursuit ce cabaret des acolytes et on va jouer un jeu. On va jouer à la gueule de l'emploi.
Ah, j'aime ça.
Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. T'as juste à nous donner l'heure et l'endroit. Tu dis qu'on n'a pas la gueule de l'emploi. Mais t'en redemandes encore.
Oh yeah!
Wow!
On vous dira qui chante plus tard à l'émission. J'ai perdu mes notes. Geneviève, allez!
Hey, on va voir si c'est qui a la gueule de l'emploi, gang. OK? Donc, alors, vous êtes prêts à peu près? On va jouer. Alors, je commence avec qu'est-ce que le système de Ponzi? Je vais vous donner des choix de réponse.
OK.
Ah! L'arnaqueur se trouve des investisseurs en leur promettant le double en rendement.
Okay.
B. New York, début 1900, on attache à un portefeuille un fil à pêche que l'on tire et que la victime tente de l'attraper. Et quand la victime tente de l'attraper, son complice attaque par arrière et vole le portefeuille de la victime.
Okay.
C. De faux voyages avec des super rabais.
C'est A.
Ah,
c'est ouais, A. J'irais avec A, moi aussi.
C'est A.
Ah, je trouvais que j'avais été quand même un peu pertinente de piéger, mais vous n'êtes pas tombé dans mon arnaque.
Ben, j'ai l'impression qu'il avait l'air de savoir c'était quoi, mais moi, j'ai voté comme lui.
Donc, c'est ça. Donc, Charles Ponzi, surnommé le maître italien d'origine, a toujours vécu en arnaqueur, que ce soit... à Montréal, à un moment donné, il est même venu, c'est ça, à Montréal, au début du 1900. Il a même été incarcéré à Saint-Vincent-de-Paul, imaginez-vous, pendant 20 mois.
Eh bien.
Ben oui. Oui, ben, qu'est-ce qui l'a rendu vraiment célèbre? C'est une arnaque montée par la suite aux États-Unis en 1919. Le système est simple, charmer des investisseurs et leur donner des rendements provenant des investissements des prochains prospects.
C'est qu'avec l'argent des autres, tu travailles avec l'argent des autres, en fond.
Là, c'est un peu comme le Tinder Swindler, là.
Non, c'est comme Vincent Lacroix, ces arnaqueurs-là. Ah, okay,
ou Bernard Madoff aussi, là. Mm-hmm. Effectivement. Fait que le système fonctionne pas si mal tant qu'il y a des nouveaux investisseurs et tant qu'on ne se fait pas prendre. C'est ce qui s'est passé. Lui, il s'est rendu aux autorités le 12 août 1920. C'est considéré comme le plus grand arnaqueur. Il a utilisé le système de Ponzi. Il est décédé l'an dernier en détention. Et là, je parlais de Bernard Madoff, en fait, qui s'est inspiré de ça.
Mais je ne savais pas que Ponzi, c'était le nom de l'Italien. C'est assez bon, ça.
Ouais.
On en apprend.
Mais là, lui, avec lui, on est correct, là. C'est réglé. Là, le prochain, on va voir si vous connaissez ça, là. OK? Attention. Alors, je parle de Christophe Rocancourt. Okay. Alors, lui, là, qu'est-ce qu'il fait?
Ça me dit de quoi, okay? Ça?
A, c'est un kidnappeur qui demande des rançons. B, c'est un spécialiste du vol à l'étalage. C, c'est un expert de la fausse identité.
Oh, oui. Moi, je dis que c'est C.
Moi aussi, fausse identité.
Moi aussi.
C'est ça.
Ah, c'est C.
Alors, c'est C. Bravo!
Yeah!
Donc, yeah! Ben, vous êtes bon. Fait que lui, là, c'est vraiment tout un arnaqueur. On le surnomme le caméléon, OK? Il a commis des arnaques de toutes sortes. Le roi des menteurs. Donc, il est français. Vous l'avez deviné probablement avec son nom. Il est débarqué à un moment donné aux États-Unis, OK? Il a appris la langue à l'hôtel, parce qu'il y avait deux bibles, une en français, une en anglais. C'est comme ça qu'il a appris la langue anglaise.
Okay? Mon Dieu, il est quand même intelligent.
Ouais! Fait que ça, dans le fond, il s'est fait passer pour un cinéaste qui aurait arnaqué plusieurs célébrités, dont l'acteur Mickey Rourke? Je ne sais pas comment le prononcer, là.
Ah oh, ouais, Mickey Rourke.
Donc, aussi, il a été accusé d'abus de faiblesse à l'endroit d'une réalisatrice française, Catherine Breillat, à qui il aurait extorqué la modique somme de 650 000 euros. Mais il était effrayant. Lui, à un moment donné, là, il a même commencé là, dans ses débuts. Il sortait avec une fille que son papa il avait acheté un énorme édifice à logement multiple et il a vendu cet édifice-là à quelqu'un. C'est pour vous dire, là.
Ah, okay? Oui.
Non, il était vraiment, vraiment, vraiment effrayant. Êtes-vous prêts pour le prochain? Le dernier, mais non le moindre.
Ouais.
Parfait. Alors là, est-ce que vous connaissez Frank Abagnale Jr.? Mmh. Lui, qu'est-ce qu'il faisait ou qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est qu'est-ce qu'il faisait? Je vous donne un petit indice.
Il est mort.
C'est un expert de la recelle. B, c'est le roi de la falsification, et de l'évasion. C, c'est un maître du chantage.
Falsification, évasion.
Moi, je vais avec l'évasion.
C'était quoi ton premier?
Recel.
Le premier,
du recel.
C'est de la recel.
La recel, moi.
Janelle, toi?
J'avais dit B.
D'accord. Alors, la bonne réponse, c'est B.
Yeah!
Alors, lui, là, il était tellement doué pour s'inventer des métiers. Il se prétendait avocat, médecin, pilote, qui a même inspiré le film de Steven Spielberg, Catch Me If You Can, où Leonardo DiCaprio l'interprète.
Tellement un bon film, ça.
Oui. Donc, la cerise sur le sundae, c'est qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, là, ce faussaire-là s'est reconverti. Il est consultant en sécurité, puis il travaille de pair avec le FBI en plus d'être millionnaire. Oh. Fait que lui, dans le fond, là, c'est ça, il fuyait tout le temps, il s'en allait, je sais pas, il était recherché dans comme plus de 50 États aux États-Unis, il était vraiment le maître de l'évasion, il s'en allait, personne ne pognait. Fait qu'à un moment donné, le FBI il est venu chercher, il a dit, écoute, là, je vais te faire, il s'est fait pogner un bon moment donné. Fait que le FBI est venu le chercher. Il me dit, hey, arrête, tu vas venir travailler avec nous, toi. Il est reconverti. Il fait le bien maintenant.
Hey, la prochaine chanson, je sais pas, on n'a jamais eu cette discussion-là, Janelle, mais je pense que t'aimes ça. Ou en tout cas, il me semble. Oh, baby. Que je me suis trompée, Janelle?
Ben, en fait, un petit peu dans le sens où Britney Spears, j'ai jamais été une grande fan, mais ça, mon Dieu, que ça me rappelle mon adolescence, ça, c'est, ça me rappelle des bons souvenirs.
Et est-ce que vous comprenez pourquoi Christine a mis cette chanson-là dans notre cabaret sur les arnaques?
Ben, oups, I did it again, I make you believe.
Ah, c'est bon, mais je pense que c'est pas pour ça que. Mais elle m'a pas parlé de ça, par exemple. Mais oh, c'est super bon.
C'est ça.
Mais elle a une chanson aussi qui est comme... qu'elle laisse paraître aussi comme... Ben,
Toxique?
Exact. Il y a cette chanson-là, puis I'm a slave for you aussi. Puis il me semble qu'il y a aussi comme, une autre chanson qu'elle parle qu'elle a l'air toute d'une petite innocente, mais finalement qu'elle est beaucoup plus que ça. Là.
Ouais, ouais.
Quelqu'un qui n'était pas vraiment une fan connaissait son répertoire.
Hein? Ouais, j'avoue, hein?
Bon, écoutez, pourquoi Christine a placé cette chanson-là dans notre cabaret? C'est parce que Britney Spears a longtemps crié sur tous les toits qu'elle était vierge jusqu'au jour où Justin Timberlake... Oui, jusqu'au jour où Justin Timberlake est venu jeter un pavé dans la mare en affirmant qu'il avait eu une relation sexuelle avec elle et que non, elle n'était pas vierge.
Ouais, tu sais, les artistes de l'école Disney, là...
Alors, on poursuit le cabaret des acolytes sous le thème des arnaques et je me tourne cette fois-ci vers Janelle. J'ai l'impression que le terme « fake news » a explosé avec la présidence de Donald Trump.
Ben oui, effectivement, on entendait ça tout le temps. Ben, en tout cas, on entendait ça beaucoup. Mm-hmm. « fake news », puis je me suis demandé, ben, c'est quoi exactement, qu'est-ce que c'est ce terme? En fait... ça désigne en fait des articles d'information intentionnellement fausses et vérifiables. Donc, on peut vérifier qu'elles sont fausses. Donc, ça a été conçu pour manipuler la perception des gens. On veut présenter comme quoi que la nouvelle est vraie, mais on le sait qu'on peut la vérifier qu'elle est fausse. Donc, c'est pas juste des informations fabriquées par les médias qui auraient un problème éditorial ou qu'il y aurait une fausse exactitude. Il y a vraiment une intention qu'on veut lancer quelque chose de faux. Donc, ça élimine dans la définition tout ce qui est un reportage involontaire, une rumeur, quelque chose qu'on n'est pas capable d'identifier, qu'une suspicion, un complot, quoi que ce soit. Donc, on veut vraiment faire exprès de mettre une nouvelle qui est vérifiablement, c'est pas un vrai mot, fausse. souvent, elles vont passer par des clickbait. Est-ce que vous savez c'est quoi un clickbait?
Non.
Peut-être que vous avez déjà été pris dans un clickbait.
Oh.
Un clickbait, en fait, c'est un mot en fait qui désigne que c'est un mystère. On veut que vous cliquiez sur quelque chose, sur une fake news. Donc, on veut attirer votre attention, on veut encourager les visiteurs. Évidemment, c'est plus sur le web. Donc, on veut aller chercher en cliquant du visionnement, aller chercher comme une facilité ou une plus grande audience. Donc, on va vous proposer des phrases étranges, étonnantes, pleines de suspense. On va aller susciter votre curiosité en mettant des gros headlines. Et puis, ça va être une fausse curiosité parce qu'en arrière de ça, c'est comme une sorte de méga cliffhanger qui va vous proposer un titre qui va vous amener ailleurs juste pour avoir des clics, pour avoir du visionnement.
Donc, est-ce que ça rapporte de l'argent à quelqu'un ou...
Oui, parce qu'il y a des publicités en arrière de ça. Puis écoute, je suis tombée sur des sites qui expliquent tellement bien en détail comment fabriquer une fake news avec un clickbait. Puis là, ils vendent de la fausse publicité pour attirer de la vraie publicité sur son site pour aller chercher des clics.
C'est ça l'enjeu, en fait, dans le fond. C'est pour faire des sous.
Exactement, exactement. Dans l'histoire, il y a plusieurs fausses nouvelles. C'est sûr que la propagande nazie a utilisé une espèce de forme de fake news à l'époque. Même l'Église catholique, avec le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, a tenté d'amener les gens à concevoir, à croire des fausses nouvelles. Dans les années 1800, il y a eu tellement de fausses histoires sur des déficiences ou des crimes supposément afro-américains. On s'en servait vraiment pour... on s'en sert aujourd'hui encore pour manipuler ce qu'on veut faire croire. Je pourrais pas vous nommer les fake news les plus populaires. Il y en a tellement, c'est tellement nombreux. C'est sûr que c'est souvent axé sur un enjeu politique. On veut essayer de contrôler le message. On veut essayer de vous amener à croire quelque chose, à vous influencer dans vos décisions. Ça peut être axé sur nos vedettes parce que ça vient nous attirer. On parlait de Britney Spears tantôt. C'est un super bon exemple. C'est complètement illicite, c'est faussé. On veut, dans le fond, tout simplement influencer votre opinion populaire, puis pas votre opinion, mais l'opinion populaire pour essayer de faire contrôler le message. Comment on peut faire pour éviter les pièges? Je vous rappelle comment on peut faire pour éviter ces pièges-là. Donc, on regarde la source, d'où est-ce que ça vient. On va au-delà du titre, OK? Parce qu'un clickbait ou une fake news, c'est tout est dans le titre. On essaie d'aller au-delà du titre. On veut vérifier les auteurs, les sources, la date de publication. On se demande, bien là, évidemment, si c'est trop beau pour être vrai, vous l'avez dit plus haut tantôt, c'est probablement trop beau pour être vrai. Donc, il y a quelque chose en arrière de ça. Puis on peut demander aussi à des experts. Donc, on essaie de regarder est-ce que cette fake news-là ou cette nouvelle qu'on pense qu'est fake news, elle est reproduite ailleurs. Donc, si elle est vérifiable, on peut regarder de cette façon-là. De grâce, là, sur Facebook, ne cliquez pas sur des liens d'histoires qui semblent complètement folles, qui donnent des détails sur les derniers à débats amoureux de Jennifer Lopez. Ne cliquez pas sur des liens qui vous diront votre trait de personnalité selon le positionnement de votre maison face au soleil. Ne faites pas de test pour savoir le nombre d'années qui vous reste à vivre
mais
selon
pourquoi?
Le dernier.
Qu'est-ce qui se passe si je fais
consommé.
Ça?
Ne cliquez pas sur le lien qui va vous permettre de connaître votre morphologie pour perdre du poids selon ce que vous aimez. Ne cliquez pas là-dessus.
J'ai déjà fait ça.
Ce sont des clickbait. Bref, voilà. Mais en faisant mes recherches, je suis tombée. Ici, on a des fans de District 31, right?
Oui, il y en a pas mal.
Hey, moi, j'ai lu en quelque part là, que ça, c'était pas vrai à la fin de ça. Ça allait être repris par Véronique Cloutier.
Non.
Puis c'est Mitsou qui allait faire l'écriture de tout ça. J'ai lu ça, moi. Hollywood PQ, le journal de Montréal.
D'après moi, t'as été victime d'un clickbait.
N'importe quoi.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
Ah, quelle belle chanson, quelle belle chanson.
Vraiment,
mais
quand c'est sorti,
mais il y a quoi le lien?
Ben oui, c'est
ça.
C'est quoi le lien avec les arnaques? Les arnaques. Eh bien,
elle n'est pas si belle que ça.
Quand il a sorti. Ben lui, il n'est pas si jeune. Il n'est pas si jeune que ça. Parce que quand il a sorti You're Beautiful, on disait qu'il avait 28 ans alors qu'il en avait 31.
Le petit mot.
Oui, il voulait.
Il a menti sur son âge.
Attirer une clientèle plus jeune. Donc, il a menti sur son âge.
Bah, mais ils sont. Ans, c'est pas si pire.
Ah oui, mais ils sont très nombreux dans la colonie artistique à avoir fait ça. Jennifer Lopez, Eminem, et un paquet d'autres à avoir menti sur leur âge.
Tout comme la majorité des gens qui sont sur Tinder puis qui se disent 10 ans plus jeune avec des photos 10 ans plus jeune.
Mais pas juste sur Tinder pour voir ça. des fois, dans un environnement professionnel aussi, on voit ça.
Oh oui!
Oh oui?
Ah!
C'est en train de... Alors, bien oui, c'est déjà la fin de ce cabaret. J'espère qu'on vous aura fait rire et informer auprès de ce thème, les arnaques. Hein? Et puis ceux qui ont été victimes, ben, sachez qu'on a quand même une petite empathie. Pas petite, on a une empathie
vis-à-vis-vous. Là, ça doit être quand même des fois terrible, là, vivre
le sentiment de s'avoir fait avoir.
Oui, exactement. Alors, facebook.com, le cabaret des acolytes, si vous voulez nous suivre. On va faire un petit mot, un petit tour de table, un petit mot de la fin. Juanito.
Ben écoutez, moi, je viens de recevoir un texto du roi d'Espagne. Faut que je clique, fait que... désolé, faut que j'y aille.
Janelle.
Écoutez, moi, là, ça m'a ramené... Ça m'a fait réaliser l'histoire des fake news. Quand même, on en entend un peu moins parler depuis que la présidence américaine a changé. Il y a quand même moins de...
Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins, par exemple.
Non, on en entend moins parler, exactement.
Ouais. C'est bon ou c'est mauvais?
Monsieur Beaudoin!
Moi, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce cabaret-là, je passe deux fois plus de temps à l'épicerie, je deviens paranoïaque, j'ai l'impression de me faire voir dans tout ce que j'achète.
Bon, j'arrête ça. À l'épicerie.
C'est vrai qu'on devient de plus en plus paranoïaque, mais il y a de quoi? Il y a tellement d'arnaques, tellement de pièges à éviter.
Et moi, je reçois un courriel, puis la première chose que je fais, je regarde l'adresse de l'expéditeur.
Il faut?
Oui.
Pour vrai?
Il faut.
Geneviève!
Méfiez-vous de l'eau qui dort, hein? Soyons prudents.
Méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est bon, c'est bon. Alors, je vous remercie. Ce cabaret est une production Fort Talent. On participait à cet épisode. Christine, qui était avec nous, Christine qui a fait l'arrangement musical. Janelle Touchette, Geneviève Proulx, Patrick Beaudoin, Juan Blasco. Mon nom est Jean-François Gélina. Et on se laisse la gang sur cette réflexion de Sandrine Filassier, cette romancière française. Faites attention. J'ai acheté récemment une liseuse. Eh bien, c'est une arnaque. Il faut lire soi-même. Bonne semaine, tout le monde.
Merci, Sandrine.